Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Et à la une de ce samedi 23 novembre 2019, en Australie, les feux de plus en plus sous contrôle, mais continuent de ravager des régions dans les états du Victoria, Nouvelle-Galles du Sud et Queensland. Et au Chili, la police a-t-elle été jusqu'aux violences sexuelles pour réprimer la contestation? C'est en tout cas ce qu'affirme la co-auteure d'un rapport de l'ONG Amnesty International que le gouvernement rejette. Et puis enfin en France, les propos d'Emmanuel Macron au sujet de la grève du 5 décembre à venir. Une simple défense des régimes spéciaux pour le président. Il entend se montrer ferme à l'approche de cette mobilisation. En Australie, les pompiers de l'État du Victoria, de Nouvelle-Galles du Sud et du Queensland s'emploient à contrôler les incendies qui font des ravages toujours dans les États. Dans l'État du Victoria, les équipes espèrent que le climat clément du week-end leur permettra de contrôler les incendies qui brûlent dans les forêts reculées du Nord-Est. Le Queensland se prépare à des conditions d'incendie dangereuses. Le bureau de météorologie prévoyant que les températures dans le sud-est de l'État resteront entre 20 et 30 degrés. Alors qu'en Nouvelle-Galles du Sud, les pompiers contrôlent environ une soixantaine d'incendies. Les services d'incendie ruraux de l'État demandent aux habitants de rester vigilants aujourd'hui. Le risque incendie reste élevé. Et puis une pétition demandant à la sénatrice Jackie Lambie de voter en faveur du maintien de la loi Medevac a reçu près de 45 000 signatures. La loi autorise le transfert de réfugiés malades présents dans des centres de détention extraterritoriaux vers l'Australie pour un traitement médical si deux médecins le jugent nécessaire. Le gouvernement veut abolir cette loi mais a besoin de l'appui de députés comme Jackie Lambie. Cette pétition appelle donc à la sénatrice Lambie à voter en faveur du maintien de la loi. Mais le ministre de l'Intérieur, Peter Dutton, reste toutefois confiant que la législation sera abrogée. On l'écoute.
I believe that we can get support for the Medivac bill, but those discussions and negotiations continue. So I think it's important though that the bill is passed because it's a very bad law. We warned Labor and the Greens of it at the time, and we've got people who are coming to our country who shouldn't be coming, and we were already providing medical support to people before.
Et la décision sera rendue par le Parlement mercredi 27 novembre prochain. Au Chili maintenant, les manifestants sont sévèrement réprimés. Le gouvernement a pourtant rejeté ce jeudi des accusations contre les forces de l'ordre de la part d'Amnesty International. Le président Sebastián Piñera admet tout de même qu'il est possible que dans certains cas, les procédures régissant l'activité de la police n'aient pas été respectées. Il a promis que d'éventuelles infractions feraient l'objet de poursuites en justice. Des forces de l'ordre viennent vivement dénoncer pour leur comportement lors de récentes manifestations, notamment à cause de ce chiffre troublant, plus de 200 personnes blessées aux yeux. Amnesty évoque une politique de brutalité délibérée contre les manifestants pour décourager le mouvement. Et Pilar San Martín, co-auteur de ce rapport, explique sur RFI que cela va jusqu'à des violences sexuelles. On l'écoute.
Nous avons découvert des actes de torture sexuelle. Au Chili, le parquet a enregistré plus de 1100 plaintes pour torture et traitement cruel, inhumain ou dégradant, ainsi que 70 agressions sexuelles commises par des membres de la fonction publique. Parmi ces agressions sexuelles, on retrouve des cas de viol, d'abus sexuels, de personnes forcées de se dévêtir et des menaces sexuelles. Parmi ces plaintes, il y a celle de Josué Moreira, un jeune médecin qui a été détenu de manière arbitraire pour avoir filmé un pillage près de sa maison. Les gendarmes lui ont tiré dessus avec des munitions au plomb, l'ont battu jusqu'à ce qu'il perde connaissance, l'ont traîné dans un commissariat où ils ont continué à le battre et où ils l'ont violé avec une matraque tout en l'insultant pour son orientation sexuelle.
Et la vague de contestation qui secoue le monde a atteint la Colombie jeudi. Des dizaines de milliers de personnes étaient réunies pour la plus grande mobilisation de ces dernières années. Ils ont fait grève et défilé contre le président de droite, Iván Duque. Des affrontements qui ont fait 3 morts et 270 blessés. Les autorités évoquaient vendredi en Colombie un calme relatif, même si des troubles et des pillages ont continué, notamment à Bogota, où la mairie vient de décréter un couvre-feu. Et le feuilleton américain maintenant de la procédure de destitution aux États-Unis. Elle pourrait bientôt entrer dans une deuxième phase au terme de 2 semaines d'audition publique. Les démocrates n'ont pas encore fait part de leur agenda, mais la commission judiciaire de la Chambre devrait rapidement se mettre au travail et plancher sur la rédaction d'un acte d'accusation qui sera ensuite soumis au vote. À moins que d'autres témoins puissent être entendus, comme l'ancien conseiller national à la sécurité John Bolton, qui affirme sur Twitter qu'il va livrer des informations. En attendant, le président s'est exprimé sur la chaîne Fox News ce vendredi matin dans une longue interview par téléphone. Il s'est défendu avec virulence. Correspondance pour RFI depuis Washington, Dan Corpé.
Adam Schiff est un chiot malade et un politicien corrompu, a entamé le président, visiblement remonté contre le démocrate qui a présidé toutes les auditions. Donald Trump a estimé contre toute probabilité que l'acte d'accusation contre lui ne serait pas voté à la Chambre. Il a déclaré connaître le lanceur d'alerte et a assuré que les détails contenus dans sa plainte, largement corroborés au cours de la procédure, étaient faux. Le président a une nouvelle fois pris ses distances avec Gordon Sondland, l'ambassadeur qui a confirmé l'existence d'un marché proposé à l'Ukraine. « Je le connais à peine, je n'ai eu que quelques conversations avec lui », a-t-il lancé. À l'audience, Gordon Sondland a lui déclaré sous serment avoir eu Donald Trump au téléphone une 20aine de fois. Enfin, le président est revenu sur une conversation téléphonique cruciale, celle qu'il a justement eue avec Gordon Sondland, à laquelle David Holmes a assisté. Ce diplomate a témoigné avoir entendu Donald Trump demander des nouvelles de l'enquête ukrainienne à son ambassadeur. Mais Donald Trump a démenti. « Je vous garantis que cela n'a jamais eu lieu », a assuré le président. Contrairement à ce proféré devant le Congrès, les mensonges à la télévision ne sont pas passibles de poursuites.
Alors qu'un vaste mouvement de grève est prévu dans moins de 2 semaines, le 5 décembre, dans le domaine des transports contre la réforme des retraites, Emmanuel Macron minimise cette mobilisation. En clôture de son déplacement de 2 jours dans le nord de la France, le président s'est montré ferme. Précision d'Anthony Lattier.
Quand certains rêvent d'une convergence des luttes, Emmanuel Macron cherche au contraire à réduire la grève à la défense d'intérêts sectoriels.
Cette mobilisation est avant tout la mobilisation de salariés d'entreprises qui relèvent des régimes spéciaux. Donc c'est une mobilisation contre la fin des régimes spéciaux.
Autrement dit, aller manifester, c'est défendre des régimes que le président qualifie d'injustes. Emmanuel Macron veut rallier l'opinion à lui et il hausse encore le ton en mettant en garde contre de possibles débordements.
S'il y en a d'autres qui veulent brouiller l'exercice ou le complexifier, c'est leur responsabilité. Il ne vous aura pas échappé que ça fait quand même maintenant quelques mois que les uns les autres veulent en effet à chaque occasion créer le désordre. Je pense que ça ne doit pas conduire à confondre les combats. Le droit de manifester aussi, il faut qu'il soit respecté. S'il est respecté, il doit se faire dans un cadre. C'est le cadre de la non-violence. Tous ceux qui franchissent cette ligne, au fond, sont les ennemis du droit de manifester et d'exprimer leur opinion.
Allusion au mouvement des Gilets jaunes qui s'est joint à la mobilisation face aux opposants à la réforme, Emmanuel Macron choisit la carte de la fermeté. Le bras de fer entre lui et la rue est engagé.
Et ce message de fermeté, le président de la République l'a également affiché sur BFM TV. Le président a accordé une interview d'une demi-heure à la chaîne d'information Valérie Gasse.
Je ne suis pas là pour avoir peur, je parle aux Français. Ces mots résument le message qu'Emmanuel Macron veut faire passer à quelques jours d'une grève que l'on annonce très dure et qui fait craindre dans le gouvernement un mois de décembre agité. Emmanuel Macron parle pour réaffirmer sa volonté de faire la réforme des retraites et redire les objectifs qu'elle doit atteindre, l'universalité, la justice, l'équité, la responsabilité. C'est une bonne réforme, martèle le président de la République, qui veut rassurer en promettant qu'un niveau minimum de retraite sera inscrit dans la loi, mais ne veut pas céder sur la nécessité de mettre en place un seul système pour tout le monde. Dans la dernière ligne droite avant la date butoir du 5 décembre, le chef de l'État joue donc son va-tout. Il s'engage personnellement et remet en avant son ambition réformatrice pour le pays, avec des accents du candidat Macron de la campagne de 2017. Cette réforme des retraites devient tout à coup symbolique d'une volonté de transformation de la France qui a été sa matrice programmatique. À l'heure où le mouvement social en préparation pourrait une nouvelle fois paralyser son action, Emmanuel Macron ne ferme pas la porte au dialogue, mais choisit le combat.
28 ans de réclusion criminelle assortie d'une période de sûreté des deux tiers, c'est la peine à laquelle a été condamné hier en France Bilal Taghi pour avoir tenté d'assassiner deux surveillants de la prison d'Oni dans le Val d'Oise où il était détenu. Français d'origine marocaine, âgé de 27 ans, il avait été condamné à 5 ans de prison pour avoir voulu partir en Syrie. Il a immédiatement reconnu avoir voulu tuer un représentant de l'État français au nom de Daesh. Explication de Sylvie Coffi sur RFI.
Ce 4 septembre 2016, Bilal Taghi sort de sa cellule pour la promenade quotidienne de 15 heures. Armé d'un couteau artisanal qu'il a fabriqué lui-même, il saisit à la gorge l'un des gardiens touché à la carotide. Mais il ne s'arrête pas là. Attaque et blesse un deuxième surveillant. Les deux victimes, en attendant les équipes d'intervention qui le maîtriseront 3 heures plus tard, parviennent à se mettre à l'abri. Bilal Taghi prend alors tout son temps et se met en scène. Il sourit à la caméra de surveillance, fait sa prière et trace un cœur sur une vitre de la prison après avoir trempé son doigt dans le sang de l'une des victimes qui macule le sol. Aujourd'hui, devant la cour d'assises, il assure avoir renoncé à l'idéologie mortifère du groupe État islamique, un changement auquel l'accusation n'a pas cru un seul instant. Il vient d'être condamné à 28 ans de réclusion criminelle, assorti d'une période de sûreté de 22 ans.
Afin de mieux repérer les signaux d'alerte des victimes de violences conjugales lorsqu'elles viennent au commissariat ou en gendarmerie, Christophe Castaner et Marlène Schiappa ont présenté aujourd'hui une nouvelle grille de 23 questions destinées aux forces de l'ordre, et ce alors que des milliers de femmes étaient rassemblées dans les rues de Paris pour dénoncer les violences faites aux femmes. Anna Piekarek pour RFI.
Chaque année en France, 250 000 femmes sont victimes de violences. Et tous les 2 jours, une femme est tuée par son conjoint ou ex-conjoint. Face à ce fléau, les organisateurs de la marche, Caroline Dehas et son collectif Nous Toutes, appellent Emmanuel Macron à décréter un plan d'urgence.
Si le président de la République ne décide pas d'un changement radical de politique publique, il y aura encore des violences massives en 2020. On a donc besoin d'1 milliard d'euros supplémentaires pour lutter contre les violences et on a besoin de mesures qui vont changer en profondeur les choses.
Parmi ces mesures, la formation des professionnels en contact avec les femmes victimes.
On nous dit portez plainte. Les femmes, quand elles portent plainte, parfois elles sont assassinées derrière. On a des dizaines, des centaines de témoignages de femmes victimes de violences au sein du couple qui appellent les forces de l'ordre et à qui on rétorque « Madame, on se déplace pas pour un balai cassé ». C'est intolérable ce manque de professionnalisme. Et c'est pas la faute des policiers et des gendarmes. C'est parce qu'ils ne sont pas formés à détecter les violences et à intervenir en urgence.
Le collectif demande aussi la création d'un brevet de la non-violence obligatoire pour les collégiens, la mise en place des tribunaux spécialisés et le renforcement de tous les dispositifs existants.
Un coup d'œil maintenant sur le sport et au tennis. La Grande-Bretagne se qualifie pour la 3e fois en demi-finale de la Coupe Davis en 5 ans. Après sa victoire contre l'Allemagne à Madrid, le Britannique Dan Evans a mis fin à sa série de défaites lors de son match en quart de finale en éliminant le numéro 35 mondial, Jan Lennard Struff, 7-6, 4-6, 7-6. Son coéquipier Karl Edman a battu l'Allemand Philippe Kohlschreiber de manière convaincante 6-3, 7-5 et les 2 victoires ont suffi à envoyer la Grande-Bretagne directement en demi-finale. Un temps nuageux sur la majeure partie de l'ensemble de l'Australie en ce samedi, du soleil 30 degrés pour Perth. C'est partiellement nuageux, 24 degrés pour Adélaïde. C'est couvert, 22 degrés à Melbourne. De la pluie attendue, 20 degrés pour Hobart en Tasmanie. De la grisaille, 32 degrés à Canberra. De la pluie possible en fin de journée avec 23 degrés pour Wollongong. Des conditions météo similaires à Sydney avec 25 degrés. De la fumée et un ciel couvert, 27 degrés pour Newcastle. C'est nuageux avec 29 degrés pour Brisbane, plutôt ensoleillé 31 degrés pour Cairns et enfin de la pluie, attendue voire de l'orage, mais 34 degrés pour Darwin. Et en bourse aujourd'hui avec 1 dollar australien, vous avez 0,66 US dollars, 0,58 euros et enfin 0,50 livres sterling. Et on revient sur les titres de l'actualité de ce samedi 23 novembre 2019. En Australie, les feux de plus en plus sous contrôle, mais continuent de ravager des régions dans les états du Victoria, Nouvelle-Galles du Sud et Queensland. Et au Chili, la police a-t-elle été jusqu'aux violences sexuelles pour réprimer la contestation? C'est en tout cas ce qu'affirme la co-auteur d'un rapport de l'ONG Amnesty International que le gouvernement rejette. Et puis enfin en France, les propos d'Emmanuel Macron au sujet de la grève du 5 décembre à venir. Une simple défense des régimes spéciaux pour le président, il entend se montrer ferme à l'approche de cette mobilisation.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.